Radio Kapi.
Ce soir, notre journal parlé s'intéresse à la situation humanitaire dans le Rutshuru à la suite des affrontements entre FRDC et combattants M23. Un député provincial parle de 40 000 déplacés dans des conditions infrahumaines. Des mesures palliatives pour une résilience face aux conséquences de la pénurie du carburant à travers la RDC et ailleurs dans le monde. Ça se discute au niveau du gouvernement. Dans ce journal, Patrick Mouyaya revient sur la mise en application de toutes ces mesures. Comme invité, nous recevons Gisèle Ndaya Luseba, ministre congolaise en charge du genre, famille et enfants. Depuis Mbujimayi, où elle a clôturé les activités consacrées au mois de la femme, elle nous en parle avec Esther Ndalafina. Mesdames et messieurs, merci de choisir Radio Kapi pour vous informer. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Au Nord Kivu, la situation humanitaire des déplacés pour fuir les affrontements qui opposent les M23 à l'armée régulière dans le territoire des Rutshuru est dramatique. Ces déplacés, estimés aujourd'hui à environ 40 000 selon un député provincial élu de Rutshuru, vivent dans des conditions déplorables sans aucune assistance humanitaire. Le député provincial Emmanuel Mouhozi lance un SOS au gouvernement congolais ainsi qu'à ses partenaires humanitaires pour venir urgemment en aide à ces déplacés dépourvus de tout et exposés à toutes sortes d'intempéries. Bernardine Diambo.
Pour cet élite de Rutshuru, les groupements de Jomba et ses environs connaissent plusieurs mouvements de déplacement des populations depuis 2 semaines. Ce sont les effets collatéraux des violences causées par le M23 qui attaquent l'armée congolaise. Honorable Emmanuel Mouhozi décrit la situation.
Depuis le 27 jusqu'aujourd'hui le 9, la population est en train de subir une situation humanitaire dramatique. Partout où les populations ont fui, je parle de Rutshuru Centre, de la localité de Mungo. Il y a aussi le groupement de Bweza qui est sérieusement affecté et une part de Kisigari. Les populations se retrouvent à Rutsiro et Antamugenga, dans les écoles et dans les églises. Aucune assistance aujourd'hui n'a été donnée à cette population qui n'a rien. Ni eau, ni à manger, ni abri. Pendant cette période très pluvieuse dans nos milieux, la population elle est exposée à toute intempérie.
Cet élu du peuple recommande au gouvernement congolais ainsi qu'à ses partenaires humanitaires de travailler urgemment sur la situation afin de permettre aux déplacés d'accéder à une assistance humanitaire avant de faciliter leur retour dans leur milieu d'origine. Sur les 8 villages que compte Jomba, il n'y a que 2 où les populations n'ont pas encore fui. Pour autant, les populations font des va-et-vient en raison de la situation sécuritaire volatile. Goma, Bernardine Diambo, Radio Kapi.
Dans la province du Maniema, 2 personnes sont mortes et 12 autres blessées ce samedi vers 1h du matin dans la localité Lubao 3 dans le groupement de Benengongo, chefferie de Basongé 1 dans le territoire de Kasongo. D'après l'administrateur du territoire qui nous livre cette information, le mur de l'église 5e Selpa s'est écroué sur les adeptes en pleine prière à la suite d'une forte pluie et de vents violents qui ont emporté la toiture de l'église. On écoute Kingombe Kitenge Benoît, administrateur du territoire de Kasongo, joint par Florence Kizalunga.
Effectivement, la pluie qui s'est abattue cette nuit dans la localité Lubao, localité située dans les groupements Benengongo, c'est dans la chefferie de Basongé 1. Cette pluie a fait des victimes. La pluie a causé d'abord des dégâts matériels, en faisant aussi des victimes, donc des morts dont il s'agit d'une femme qui est morte sur place, c'était vers 1h du matin, et un homme qui est décédé vers 8h ce matin, à 8h. Donc, les 2 morts, ce sont des adeptes de cette église qui étaient en pleine prière. Fort malheureusement, suite à la pluie, la toiture est partie et le mur s'est effondré. Sur place, la dame est morte et ce matin, c'est l'homme aussi qui est décédé. Et pendant ce temps, il y a eu 12 blessés qui se trouveraient pour le moment au poste de santé du groupement Benengongo pour les soins qui ne sont pas tellement appropriés. Voilà la situation triste qui s'est passée cette nuit dans la localité Lubao, dans le groupement Benengongo. Ce groupement est situé à 64 km de Samba.
Pénurie du carburant à la pompe sur l'ensemble du pays, le gouvernement va prendre des mesures adéquates qui tiennent compte des recommandations formulées à la suite des réunions avec les acteurs du secteur agroalimentaire et des pétroliers. Cette question a été évoquée au cours du Conseil des ministres d'hier vendredi. On écoute le ministre Patrick Muyaya dans cet extrait que nous propose Alain Hirung.
Le deuxième point de la communication du Premier ministre a porté sur la pénurie du carburant à la pompe sur l'ensemble du territoire national. À l'instar des autres pays du monde, confrontés aux conséquences du conflit russo-ukrainien, le Premier ministre chef du gouvernement a rappelé au Conseil que la République démocratique du Congo est également exposée aux perturbations dans l'approvisionnement de produits pétroliers avec un risque direct sur les prix de produits alimentaires ainsi que sur le coût des transports des biens et des personnes. C'est ainsi que le Premier ministre a présidé plusieurs réunions de crise avec le ministère sectoriel et les acteurs des secteurs concernés, notamment les secteurs pétroliers et les secteurs agroalimentaires, en vue de permettre au gouvernement de prendre des mesures appropriées qui tiennent compte de pistes de solutions dégagées lors de rencontres susmentionnées. Le troisième point de la communication du Premier ministre a porté sur la reprise des activités académiques sur toute l'étendue du territoire national.
Autre nouvelle d'actualité, la suspension du directeur général intérimaire de l'Office de gestion et du fret maritime au GEFREM continue à susciter des réactions. La dernière est celle du permanent syndical de cette entreprise. Dans une déclaration à Radio Okapi ce samedi, Blaise Pascal Banzoua estime que cette décision du ministre des Transports suspendant Olivier Manzila est irrégulière. Il dit par ailleurs dénoncer l'ingérence du ministre Chérubin Okende dans la gestion de l'OGEFREM. On écoute Blaise Pascal Banzoua.
C'est un conflit de l'OGEFREM avec son ministre. Puisque le ministre n'ouvrait pas un dialogue sincère, les agents ont décidé d'écrire au Premier ministre. Et le Premier ministre, le 18 mars, a écrit pour dire au ministre du Transport que vos décisions devraient être reconsidérées. Parce que pour le Premier ministre, il avait trouvé que cette décision-là violait les statuts de l'OGEFREM. Il a demandé au ministre de le reconsidérer. Malheureusement, c'est fait que aujourd'hui, les DGAI, Mandil a été suspendu, les ministres s'est appuyé sur les décisions auxquelles le Premier ministre lui avait demandé de reconsidérer. Mais nous nous posons la question, si le Premier ministre qui les gère a déjà considéré ces décisions comme malvenues et ne les a pas acceptées, il a demandé de les reconsidérer. Comment le ministre pouvait encore se baser sur ça?
En réaction, le président national du syndicat Union pour la paix sociale, UPS, syndicat majoritaire à l'OGEFREM, estime que Blaise Pascal Banzoua ne doit pas se substituer au Conseil d'État. Seule cette institution, dit-il, est qualifiée pour juger de l'irrégularité ou pas de la décision d'un ministre ou d'un premier ministre. René Lokocho affirme pour sa part que le DG intérimaire de l'OGEFREM, Olivier Manzila, a commis des fautes graves et que le ministre des Transports a agi sur ordre du premier ministre pour le suspendre. On écoute René Lokocha.
Reste M. Banzoua est devenu membre du Conseil d'État pour juger que la décision du Premier ministre ou la décision du ministre ou du Président de la République est irrégulière. Juger la régularité ou l'irrégularité d'une décision politique ou de gestion, ce n'est que le Conseil d'État qui peut le faire. Nous sommes des syndicalistes. Les syndicalistes, notre rôle, c'est de nous occuper des travailleurs, défendre les intérêts sociaux, politiques, socio-professionnels, socio-économiques des travailleurs que nous encadrons. Mais tout ce que nous savons, que M. Manzila Mutala a été suspendu pour des irrégularités graves constatées par sa hiérarchie. Le ministre Titel a agi sur instruction du Premier ministre. Le ministre n'a pas exécuté les instructions du Président de la République qui a ordonné qu'on puisse récupérer les 11 travailleurs qui ont été abusivement licenciés. Nous, syndicats, notre rôle à nous, c'est d'applaudir à deux mains lorsque une décision comme telle arrive pour récupérer les travailleurs. Parce que nous, c'est sauver l'emploi des travailleurs.
C'est un dossier signé Alain Hirung. Honore Oubongui, le syndicat national des inspecteurs de l'enseignement au Congo, Sinieko, menace de boycotter les activités de l'ENAFEP, examen national de fin d'études primaires, édition 2022. La décision a été prise à l'issue d'une assemblée générale des inspecteurs tenue ce samedi à Guadolité en solidarité avec leurs collègues de Kinshasa. Les participants ont évalué l'application de l'accord de Mbuela Lodge autour des 10 promesses faites à l'endroit de l'inspection générale de l'EPST. Précision du secrétaire provincial du Sinieko Honore Oubongui, Apollinaire Ndanga. Il a été joint au téléphone par Paul-Richard Malengela.
Évaluation parce que tout était promis pour le mois d'avril. Mais le mois d'avril annonce qu'il n'y a aucun écho. On parle plutôt de l'ONU, mais tout ce qu'on a demandé, rien n'est fait. C'est pour cela que nous sommes réunis pour évaluer. La position a été dite après évaluation, toutes les recommandations n'ont jamais été prises en compte, c'est-à-dire le paiement de primes, tout ce qu'on avait promis pour les frais de fonctionnement, les nouvelles unités de RP n'ont jamais été payées depuis le mois de décembre. C'est pour ça que nous avons dit que si rien n'est fait, dès ce mois d'avril, nous allons boycotter les TNAPEP, les textes du primaire.
L'examen d'État aussi?
À ce niveau-là, parce que c'est la même qui est le compte des chefs de l'État, la gratuité. Nous avons pris tous les syndicats de la province. On a évalué avec eux. Parce que les recommandations, les syndicats avaient bougé le gouvernement. Qu'on fasse échouer cette gratuité-là comme ça, les chefs de l'État vont réagir.
Signalons que parmi les revendications des inspecteurs adressées au Premier ministre figure la signature de la grille barémique des primes, les primes d'itinérance, la réactivation des inspecteurs sans salaire depuis décembre 2021, ainsi que le paiement de tous les intervenants aux éditions de TNAFEP 2020 et 2021. Au Sud Kivu, lancement officiel et inauguration de l'école doctorale en agroécologie et sciences du climat vendredi 8 avril à l'Université évangélique en Afrique UEA Bukavu. Un programme conjoint organisé par le consortium des quatre universités congolaises membres du RU Forum, à savoir Université catholique de Bukavu UCB, Université officielle de Bukavu UOB, l'Université évangélique en Afrique UEA et l'Université catholique de Graben UCG de Butembo. Objectif, répondre aux soucis des chercheurs des Grands Lacs et les encourager dans des domaines porteurs dans le cadre du vécu quotidien de la population. Rachel Kiesembangou y a pris part.
Cette école interuniversitaire va recruter les étudiants ayant une maîtrise ou un diplôme d'études approfondies ou spécialisées obtenues avec distinction. L'école doctorale va analyser la problématique d'interaction qui existe dans nos systèmes des cultures entre les plantes, les animaux, l'eau et les humains dans différentes conditions climatiques. Tel que le dit le professeur Gustave Mouchagaloussa, recteur de l'UEA, université qui assurera le lead de cette école doctorale.
L'école doctorale est là pour analyser dans quelles conditions nous pouvons produire. Avec les changements climatiques, avec la perturbation climatique, on devrait par exemple analyser les plantes qui sont adaptées. On pourrait réadapter les calendriers agricoles. On pourrait faire des études de gestion durable de l'eau. Donc c'est toutes ces innovations-là qui vont être étudiées et appliquées.
Le professeur Mudogo Virima, représentant et directeur de cabinet du ministre de l'ESU, a lancé officiellement l'école doctorale qui est, selon lui, une réponse pour les chercheurs de Grand Lac dans le domaine de l'environnement. Signalons qu'avant ce lancement officiel, un séminaire de 2 jours a été organisé sur la recherche orientée vers la résolution des problèmes d'insécurité alimentaire pour une stabilité environnementale et socio-économique. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, les responsables des différentes radios et télévisions de Butembo ont pris part ce samedi à une séance de renforcement des capacités en matière de gestion de la grille de programme. Cette formation a été organisée par la sous-section locale de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. Elle a été motivée par le constat selon lequel plusieurs médias locaux ne disposent pas de grille de programme qui répondent aux attentes de la société, indiquent les organisateurs. Sadiki Aboubakar, reportage.
Kid Mutuka est le président du collectif des médias de Butembo. Cette structure regroupe les responsables de tous les organes de presse de la place. D'après lui, la plupart des organes de presse locaux ne répondent pas aux attentes de la communauté.
Mon constat, il est amer. Quand vous écoutez telle ou telle autre radio, vous constatez que on crée une radio, mais la grille ne répond pas aux attentes de la population. Et ce sont souvent les auditeurs qui parfois nous interpellent. Quelqu'un viendra vous dire, comment se fait-il que telle radio ou telle autre radio diffuse des choses dont on n'a pas besoin.
Rachid Yamourika Songo est le président de la sous-section locale de l'UNPC. Selon lui, cette formation permettra aux médias locaux de mettre en place des programmes au service de la communauté.
Nous vivons dans une zone insécurisée. Lorsque vous avez une grille de programmes dans laquelle vous trouvez des émissions qui vont dans le sens d'appeler les gens à une citoyenneté responsable, c'est de cette manière-là que nous pensons qu'une radio sérieuse avec une grille de programmes sérieuse peut contribuer au changement positif de la société, au développement, même à la reconstruction.
La ville de Butembo compte environ 50 chaînes de radio et télévision, un nombre qui dépasse même la ville de Goma, chef-lieu de la province Nord Kivu, affirme Rachid Yamourika Songo. Butembo, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Tenue des élections législatives en Gambie, organisées en un seul tour samedi, elles permettent aux électeurs de choisir les 53 parlementaires qui siégeront à l'Assemblée nationale, tandis qu'Adama Barrow en désignera 5 autres dont leur président. Le vote d'une nouvelle constitution sera la principale tâche des législateurs élus. Le changement constitutionnel avait été promis dès l'arrivée au pouvoir d'Adama Barrow, mais en 2020, la majorité a rejeté un texte limitant le président à 2 mandats. 5 mois après l'élection présidentielle qui avait valu un second mandat à Adama Barrow, ce scrutin fera office de test pour le président et son tout jeune parti, le Parti National du Peuple NPP, créé en 2020 après l'éclatement de la coalition qu'il avait portée au pouvoir. Les résultats sont attendus dimanche. Au moins 12 soldats et 4 volontaires ont été tués à Namisiguima, au nord du Burkina Faso. Vendredi matin, des hommes armés ont lancé des obus avant de tirer sur les détachements militaires, blessant également une vingtaine de soldats et entraînant des dégâts matériels. Du côté des assaillants, présumés djihadistes, aucun bilan n'a encore été établi. Cette attaque survient alors que l'armée a lancé une opération de dépollution dans la région, les militaires étant plus présents sur cette zone dans une politique de reconquête des localités.
L'invité.
La ministre nationale du Genre, Famille et Enfants a bouclé samedi sa mission en Mbujimayi au Kassai Oriental. Gisèle Ndayalou-Seba est venue clôturer officiellement les activités relatives au mois de la femme édition 2022. Au cours d'une interview exclusive, la ministre nationale du Genre, Famille et Enfants fait le bilan du mois de la femme. Gisèle Ndayalou-Seba s'entretient avec Esther Dalafina.
Bonjour Madame Gisèle Ndaya, vous êtes la ministre nationale du Genre, Famille et Enfants. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici en Mbujimayi au Kassai Oriental?
Merci beaucoup. Comme vous le savez, déjà un mois, et le mois passé, c'était le mois dédié à la femme. Le 8 mars, nous avions célébré la journée internationale de la femme, mais ça s'est passé en Mbandaka. C'est vrai que sur toute l'étendue de la République, il y a eu des activités. Nous avons commencé par des cultes d'action de grâce et aussi l'exposition dans des foires, l'entrepreneuriat de la femme, bien sûr. Mais comme prévu, la clôture du mois de la femme devait se faire au Kassai. Compte tenu des aléas de transport de l'aviation, j'ai préféré clôturer le mois de la femme ici. Voilà la raison de ma visite en Mbujimayi.
Quel bilan faites-vous du mois de la femme?
Le bilan est largement positif parce que nous avons beaucoup d'avancées en ce qui concerne l'agenda genre et la politique qu'on adapte pour le moment, la politique de la femme pour permettre à la femme de s'épanouir et aussi sur la promotion de la femme. Nous avons commencé par célébrer la journée du 8 mars, juste après, avec une forte délégation. Nous sommes allés à New York pour représenter notre pays dans les différentes conférences, les différentes tables rondes qui étaient organisées à New York. Et à cette occasion, j'ai profité d'échanger aussi avec les différents partenaires et pourquoi pas d'autres ministres du genre de l'Afrique, comme la ministre du Sénégal, qui on a échangé sur la masculinité positive. Au niveau de la RDC, il y a eu des activités dans les différentes structures des femmes. Aussi, le ministère du genre a organisé des conférences. Elle a organisé des activités sur l'autonomisation de la femme et l'entrepreneuriat. Aussi, des reboisements par rapport à notre thème de l'année qui parle de changement climatique et aussi des catastrophes qui en découlent, parce que vous savez que la femme, elle est la première victime par rapport à cette thématique. Et c'est pourquoi nous avons sensibilisé la femme à protéger l'environnement, à éviter tout ce qui peut nuire à son environnement, parce qu'elle est la première victime. Et pourquoi pas la victime aussi par rapport à la violence sexuelle basée sur les genres.
Par rapport à la thématique même de l'année, l'autonomisation des femmes et des filles dans le contexte de la lutte contre le changement climatique, quelle est la politique de votre ministère par rapport à l'autonomisation économique de la femme?
C'est vrai, c'est un pilier très important que le gouvernement central a porté à mon ministère. Au niveau de mon ministère, nous avons commencé par le renforcement des capacités. Parce qu'aujourd'hui, si nous devons parler du développement d'un pays, du développement d'une ville, moi je pense que la femme est le levier principal du développement. Alors, on commence d'abord par former la femme, donner des moyens à la femme, parce que le ministère du genre, c'est un ministère d'investissement. Quand vous accompagnez la femme dans ce qu'elle fait. Dites-vous bien que vous êtes en train de démarrer à ce qui concerne le développement.
Vous avez rencontré différentes responsables des organisations féminines qui ont évoqué autant de difficultés auxquelles la femme kassaïenne est confrontée. Que comptez-vous faire pour que ces difficultés soient surmontées? Donc on parle des femmes qui sont analphabètes aujourd'hui, de la pauvreté, problème de l'accès à la terre, tout ça.
Au niveau du ministère, nous avons une politique que nous avons mise en place. On commence d'abord par la sensibilisation, la prise en charge de la femme elle-même. Ensemble avec ma collègue de la formation professionnelle, nous avons mis un plan d'action pour dire que nous devons accompagner la femme qui a raté peut-être la scolarité au niveau primaire, secondaire, même l'université, même la femme qui est déjà vieille. Donc nous pouvons toujours la récupérer parce qu'elle est utile dans la société. Et c'est comme ça que nous avons organisé des formations et c'est la première promotion. Après, nous reviendrons encore pour continuer des formations et donner des kits de résilience aux femmes pour permettre à ces femmes de se prendre en charge. Vous-même, vous le savez, la femme est-kassaïenne, c'est une femme qui a l'image pauvre. À partir de us et coutumes, la femme ne sait pas parler, la femme ne sait pas s'épanouir, elle ne sait pas s'exprimer, dire ce qu'elle pense, mais elle a des compétences. Donc nous exploitons ses compétences pour l'orienter dans ce qu'elle est et par rapport à ses compétences, lui donner aussi ce qu'elle peut avoir comme travail.
Madame Gisèle Ndaya, je vous remercie.
Je vous remercie aussi, madame.
Voilà comment se referme cette édition de journal préparée par Alain Irung, Pierrot Elameji, Billy Van Lutumba était à la présentation. Au nom de toute cette équipe, nous vous disons sincèrement merci pour votre attention soutenue.